principes actifs.
J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principesactifs.net. Principes actifs, le mix des cultures.
Your best shot right at me. 'Cause pain, I can take it easily. Did you really think I'd fall to my knees just to pray for some sweet simplicity? 'Cause whoa, you're squeezing my heart too hard in your bare hands. They hold too tight. And feels electric cord here in your sight.
RFI 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Et oui, c'est le début d'RFI Matin tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue avec l'ensemble de la rédaction à Paris et dans le monde. On est ravis bien sûr de vous retrouver jusqu'à 10h. On va largement revenir sur ce score historique de l'AFD en Allemagne, l'extrême droite aux portes du pouvoir dans la région de Saxe-Anhalt. On sera sur place et on va décrypter tout ça ce matin dans une édition spéciale, notamment dans une heure et d'abord dans votre journal. Bonjour Martin Guèze.
Bonjour Andréane Mélard, bonjour à toutes et à tous.
Alors pas de majorité absolue pour l'AFD, mais quand même un coup de tonnerre.
C'était annoncé, c'est désormais confirmé. Pour la première fois depuis 1945, l'extrême droite remporte une élection régionale en Allemagne, dans le Land de Saxe-Anhalt. L'AFD remporte 44% des suffrages. Il manque cependant une poignée de sièges au parti pour gouverner seul. L'heure est donc aux alliances. Nous serons ensuite au Liban dans ce journal où les bombardements israéliens s'intensifient encore ce matin dans le sud du pays. La pire escalade depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en juin dernier. Au Sénégal, le mouvement contre la vie chère prend de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux. En France, deux procès d'ampleur s'ouvrent aujourd'hui, celui de deux militants d'ultra-droite accusés d'avoir tué un rugbyman argentin en 2022 et celui des fils de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh dans une affaire de biens mal acquis. Et puis on n'oublie pas l'US Open en tennis. Trois Américains qualifiés pour les quarts cette nuit et un Français qui aimerait les imiter, non pas Arthur Fils, mais Arthur Gia, véritable surprise du tournoi.
Nous avons accompli exactement ce que nous visions. Nous avons marqué l'histoire de cet État, cela ne fait aucun doute. Quant à nos adversaires, ils n'avaient pratiquement pas de programme propre, tout tournait autour de l'AFD. Par conséquent, nous avons tout fait correctement et le résultat est éloquent.
L'extrême droite jubile en Allemagne. Un homme en particulier est tout sourire, à savoir le nouveau visage de l'AFD, celui d'Ulrich Siegmund.
Que vous venez d'entendre, à 35 ans, point levé, cravate ajustée, il est la vitrine triomphante et un nouveau symbole, celui d'une digue qui a cédé, puisque depuis la première fois depuis 1945, un parti d'extrême droite remporte une élection régionale en Allemagne. Cela s'est passé en Saxe-Anhalt ce dimanche, land de 2 millions d'habitants dans l'est de l'Allemagne, dans un pays qui en compte 84. Le parti anti-migrant qui double son score des dernières régionales et qui obtient 44% des voix, mais qui ne pourra pas gouverner seul, n'obtenant pas la majorité absolue. Il manque 3 élus à l'AFD pour obtenir cette majorité. Le temps des tractations a commencé. L'AFD, qui pourrait s'allier au BSW, un petit parti attrape-tout, étiqueté populiste de gauche et pro-russe, évalué à 5% des suffrages. Nathalie Versieux.
BSW, un parti populiste de gauche, pro-Poutine et opposé à l'immigration, partisan du gaz russe bon marché, présente un certain nombre de points communs idéologiques avec l'AFD. Claudia Wittich, la candidate du parti en Saxe-Anhalt, hier soir à la télévision.
Nous avons dès le début dit que nous nous réservions le droit de décider au cas par cas avec qui nous pourrions réaliser tel ou tel projet spécifique. Et il y a bien sûr des projets que nous pourrions tout à fait réaliser avec l'AFD. Par exemple, sur le prix de l'énergie. C'est un énorme problème en Saxe-Anhalt. Pour nous aussi, c'est un projet très important et là, on pourrait réaliser quelque chose avec l'AFD.
Face à elle, la chef de l'AFD, Alice Weidel, exulte.
Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait une politique raisonnable. raisonnable. C'est comme ça que se comportent les démocrates, en acceptant de débattre des sujets importants sans langue de bois. Parce que dans une démocratie, il faut parler les uns avec les autres.
BSW est le seul parti allemand à rejeter le principe du mur pare-feu autour de l'extrême droite, un concept qui interdit depuis 2010 aux partis allemands tout rapprochement avec l'extrême droite. La formation d'une majorité entre ces deux extrêmes, si elle voyait le jour, serait une première en Allemagne. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Les conservateurs de la CDU, formation du chancelier Friedrich Merz, eux s'effondrent dans les scores, dans les urnes. Ils divisent leur score des dernières élections par deux, à peine 17% des voix. Un scrutin local à l'ampleur nationale. La patronne de la formation AfD au niveau national, Alice Weidel, doit prendre la parole dans la matinée, tout comme le chancelier allemand Friedrich Merz. D'autant que deux nouvelles élections régionales se profilent en Allemagne dans deux semaines. Un scrutin en Saxe-Anhalt, sur lequel nous reviendrons largement ce matin dans notre édition spéciale. Rendez-vous dans un peu plus d'une heure à 6h10, temps universel.
En Serbie, Ratko Mladic sera inhumé ce lundi à Belgrade.
Une cérémonie avec les honneurs devant des milliers de personnes, ce qui provoque un tollé chez les musulmans de Bosnie et ailleurs en Europe. Mort à l'âge de 84 ans dans une prison de l'ONU aux Pays-Bas à la fin du mois d'août, le criminel de guerre purgeait une peine de prison pour génocide et crimes contre l'humanité. Il reste une figure très populaire auprès de nombreux Serbes. Hier, lors du derby de Belgrade en football entre l'Étoile Rouge et le Partizan, des supporters lui ont rendu hommage avec un immense tifo et une référence au massacre de Srebrenica.
L'actualité de ce lundi, Martin, c'est aussi le Liban et ses nouvelles frappes meurtrières menées par l'armée israélienne dans le sud du pays.
Il s'agit de la plus grave escalade depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 26 juin dernier. Au moins deux personnes ont été tuées hier. L'armée israélienne qui a bombardé une douzaine de localités au-delà de la zone tampon. Cela fait suite à d'autres bombardements et d'autres ordres d'évacuation déjà hier matin. Et on retrouve en direct de Beyrouth notre correspondant Paul Khalife. Paul, comment expliquer des frappes d'une telle intensité dans la région de Nabatieh ?
Martin, à Beyrouth, cette escalade inédite est jugée disproportionnée par rapport au lancement par le Hezbollah de deux drones qui n'ont pas fait de victimes dans les rangs de l'armée israélienne. Les analystes l'attribuent à des raisons politiques et militaires. Le président du Parlement et allié du Hezbollah, Nabih Berri, a estimé, je cite, qu'Israël poursuit sa politique visant à transformer le sud Liban, ses habitants et leurs biens en une urne électorale ensanglantée à l'approche des prochaines élections. D'autres experts mettent en avant des considérations militaires pour expliquer ce déferlement de violence. En pilonnant la région de Nabatieh, un des principaux bastions du Hezbollah, l'armée israélienne cherche à consolider son contrôle des collines de Ali Tahr, situées à 4 km au sud-ouest de la ville. L'affaiblissement durable du Hezbollah dans ce secteur, au nord du Litani, permettrait de mieux sécuriser la zone tampon de facto, établie, elle, au sud du fleuve, sur une superficie de 700 km². Le quotidien Al-Akhbar, proche du parti chiite, estime que l'objectif ultime de ces opérations militaires serait de pérenniser l'occupation d'une zone de 3 à 4 km de profondeur à qui les Israéliens ont déjà donné le nom de zone grise.
Merci Paul Khalife, en direct de Beyrouth sur RFI. L'actualité du Moyen-Orient, c'est aussi ce bilan de plus de 300 morts au Yémen dans des affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles houthis pro-iraniens, des combats qui font rage depuis plusieurs jours dans le sud-ouest du pays, alors que les Houthis ont lancé une nouvelle offensive jeudi autour du détroit de Bab el-Mandeb.
RFI 5h07 à Dakar, où la grogne monte face à la vie chère.
Avec cette campagne intitulée 30 jours pour le juste prix, lancée samedi avec une manifestation dans la capitale sénégalaise. Campagne qui se prolonge sur les réseaux sociaux. Influenceurs comme citoyens dénoncent le prix de la viande, des légumes, de l'énergie et des loyers à Dakar, comme dans tout le pays. Pauline Le Troquier.
Tout part du hashtag 30 jours pour le juste prix choisi par les organisateurs de la campagne. Ces dernières heures, sur TikTok, X ou Instagram, de nombreux Sénégalais, résidents comme de la diaspora, se filment à partir de leur smartphone et décident de se livrer. C'est le cas d'Ouma Hani, influenceuse franco-sénégalaise dont le témoignage cumule des dizaines de milliers de vues.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste dingue ce qui est en train de se passer en ce moment. Je paye la même chose en France. Comment tu fais pour nourrir une famille complète avec le prix de la viande aujourd'hui ? Parce que c'est dingue qu'un pays comme le Sénégal, qui n'est pas riche, qu'on dise la vérité, pratique des prix aussi élevés en fait. Et au nom de quoi ?
Au nom de quoi ? La question revient en boucle. La fragilité des finances publiques du pays ou encore le contexte international peuvent expliquer certaines hausses. Mais le prix des loyers, de l'électricité ou des loisirs sont jugés anormaux et hors sol. Jamais cela n'avait été aussi largement dénoncé. Diana Bandiaye est l'une des responsables de la campagne.
Les réseaux sont une grande arme ici parce qu'on se rend compte que tout le monde peut se voir dans ce combat-là. Nous tous, on ressent la même chose aujourd'hui. Les Sénégalais nous ont rejoints dans ce combat-là et qui sont prêts également à poursuivre les plans d'action.
Ces prochaines semaines, le collectif appelle les Sénégalais à documenter et signaler tout excès de prix. Sa plateforme dédiée en ligne compte 7000 utilisateurs. Pauline Troquier, Dakar, RFI.
Canada prépare sa riposte.
Elle s'apprête à répliquer aux droits de douane américains en taxant à partir de demain certaines importations venues des États-Unis. Une guerre commerciale qui touche particulièrement le secteur de l'ameublement. Historiquement, les fabricants canadiens exportent aux États-Unis et se voient désormais concurrencés par les importations asiatiques à bas prix. Reportage à Montréal, Nafia Liber.
Ici, on construit des banquettes.
Pierre Lemieux dirige une usine de meubles à Montréal. Ses clients les plus importants, eux, sont aux États-Unis. Entre les deux, les barrières douanières n'en finissent plus de s'accumuler.
Il y a des frais constamment à payer. Mais si tu as des tarifs de 25 % sur un projet, on va dire, de 100 000 $ mais c'est 25 000 $ de moins sur ta facture. On est là en ce moment. Notre marge de profit, elle a baissé énormément.
Et la guerre commerciale produit maintenant un autre effet ricochet, alerte l'Association des fabricants de meubles du Québec, son président Gilles Pelletier.
Quand Donald Trump met des tarifs, et met pas juste des tarifs au Canada, il met des tarifs partout.
Freinée, elle aussi, à l'entrée des États-Unis, une partie des meubles asiatiques se rabat sur le Canada, dit-il, à des prix impossibles à suivre ici.
C'est la compétition qui est malsaine, c'est néfaste pour nous. C'est ça qu'il faut contrôler, justement, le dumping de meubles importés qui rentrent au Canada. Pour nous, c'est primordial.
Sous la pression, le gouvernement a imposé cet été une taxe provisoire de 25% sur certains meubles importés. Et depuis cette semaine, il réexamine aussi des restrictions déjà appliquées à du mobilier chinois et vietnamien. Première décision attendue d'ici la fin janvier 2027. Nafia Liber, Montréal, RFI.
Actualité judiciaire chargée ce lundi en France.
Avec le procès de militants d'extrême droite, notamment Loïc Le Priol et Romain Bouvier, accusés d'avoir tué le rugbyman argentin Federico Martín Aramburu, c'était en 2022. Et puis autre procès, celui des deux fils de l'ex-président du Yémen, Ali Abdullah Saleh, président renversé en 2012, assassiné par les rebelles houthis. 5 ans plus tard, ses fils sont poursuivis pour blanchiment et détournement de fonds publics. Pour corruption en bande organisée, ils sont accusés d'avoir acquis des biens immobiliers de luxe à Paris pour un montant total de 16 millions d'euros. Explication Laura Martel.
L'ex-président Ali Abdullah Saleh est soupçonné d'avoir pillé son pays durant ses 33 années au pouvoir et d'en avoir fait profiter ses proches, dont son fils aîné Ahmed, 54 ans aujourd'hui, et son troisième fils Khaled, 39 ans. D'après la note de synthèse du parquet national financier, les soupçons de biens mal acquis pèsent sur 3 ensembles immobiliers de luxe situés près des Champs-Élysées. La première transaction concerne plusieurs appartements achetés 7 millions d'euros en 2005, la seconde, un appartement payé 6,5 millions d'euros en 2010, la troisième, une participation de 2,5 millions d'euros pour l'achat en 2011 de 2 hôtels particuliers. L'enquête a permis d'identifier plusieurs comptes parisiens appartenant à Ahmed Saleh, dont l'un a été alimenté depuis le Yémen de plus de 26 millions d'euros entre 2009 et 2011, qui aurait contribué à financer ses biens. L'origine illicite de ces fonds, inextricablement liée au régime kleptocrate d'Ali Abdullah Saleh, est établie, analyse le PNF, qui s'appuie notamment...
darling from me. Now there ain't nobody gonna miss me when I'm gone. There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. There ain't nobody gonna mourn for me too long. Won't you write these words upon my headstone? There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. Dear and daddy, but now they're in the land where angels dwell. They found eternal life way up in heaven, where I find my reward no one can tell. There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. There ain't nobody gonna mourn for me too long. Won't you write these words upon my headstone? There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. And true to me, old Rover, you're the only one that's never done me wrong. Come close to wildlife, pat your head, old Rover, cause there ain't nobody gonna miss me when I'm gone. There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. There ain't nobody gonna mourn for me too long. Won't you write these words upon my headstone? There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, there ain't nobody gonna mourn for me too long. Won't you write these words upon my headstone? There ain't nobody gonna miss me when I'm gone.
Chers auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9. À Évreux, 102.4.
Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Mais les nations et mon mensonge et mon fait clair. Oui, les nations et mon mensonge et mon douleur. Mais les nations et mon mensonge et mon fait clair. Oui, les nations et mon mensonge et mon douleur.
Cri, crac,
Bongo.
Trempe par Bibi Jacques au noyau.
Cri-crac sur mon pot.
J'ai réussi ma life. Demain je sais pas, mais aujourd'hui j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qui vaut mieux en mettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yankee, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être, mes ex me regrettent. J'ai réussi ma life, j'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après degré. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. Je rentre en boîte en Quechua, je suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? Je voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life. Oxorel est dit sur la rythmique à face.
Goiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveil sur le tapis. Sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, t'as ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Frimer, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide, pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. Tu s'achètes pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi ma life.